Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Mann est avec vous. Michel Claire Joseph assure la mise en onde. Ce soir, la Terre promise, mythe ou réalité? C'est une question qu'on pose. Bienvenue à cette discussion sur le conflit israélo-palestinien, un conflit complexe imprégné d'éléments messianiques et bibliques. Avec nos invités, nous explorons l'influence de ces éléments sur le conflit, examinant comment l'histoire, la religion et les croyances ont contribué à façonner les aspirations et les revendications des Israéliens et des Palestiniens. Pour en parler, nous sommes en ligne avec l'historien Mohamed Mbodj de Manhattanville College à New York. Bonsoir, professeur Mbodj.
Bonsoir.
Et bienvenue dans le dialogue des religions.
Merci.
Nous sommes également en ligne avec le père Grégor Prichotko de l'université Paris-Sud Saclay, originaire du Kazakhstan, docteur en droit canonique, rattaché au laboratoire droit et société et religieuse. Il se trouve à Paris. Père Grégor, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Bienvenue encore une fois dans le dialogue des religions.
Merci beaucoup.
Restez donc avec nous pour cette conversation informative et nuancée sur ce sujet. Parlons d'abord de la promesse biblique de la terre. Les revendications territoriales en Terre Sainte sont enracinées dans des croyances religieuses juives et chrétiennes, avec des références bibliques à la terre promise à Abraham et à la descendance d'Israël. Professeur Mbodj, je commence avec vous. Comment les interprétations historiques de ces promesses bibliques ont-elles évolué au fil du temps et quel rôle ont-elles joué dans la formation des revendications territoriales actuelles au Moyen-Orient?
La plus forte de ces revendications est certainement l'histoire de Moïse et de son départ d'Égypte après une pérégrination très périlleuse et donc pour se retrouver et s'établir effectivement dans le territoire qui avait été promis à Abraham pour abriter les membres de la communauté juive. Donc de ce point de vue-là, il y a certainement une sorte de droit que les juifs revendiquent à occuper ce territoire, au moins depuis la période Abraham, depuis Abraham, et renforcé par l'exode d'Égypte en Israël avec Moïse. Et donc tout le reste, ce sont des péripéties et des chapitres qui quelquefois ont vu les Israélites, les Juifs, et même être expulsés de leur territoire par plusieurs occupants, les Babyloniens, quelquefois traduits en esclavage et exportés ailleurs par l'Empire assyrien, etc. Expulsés même par les Romains qui, à un moment donné, ont interdit aux Juifs d'habiter Jérusalem, qui est évidemment le lieu saint même de cette promesse, parce que c'est là où se trouve ce qui relie, ce qui lie les Juifs à Dieu, donc le siège de leur contrat avec Dieu. Donc, à travers toutes ces pérégrinations, dont évidemment la dernière grosse et épouvantable mouture, c'est la tentative d'Hitler de décimer les Juifs à défaut de pouvoir les exclure totalement et finalement d'Europe.
Père Grégor, la terre promise.
Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le professeur. Dans le monde hébraïque, qui est à l'origine nomade, le rapport à la territorialité s'est avéré très différent de celui qu'ont eu les peuples d'autres civilisations sédentaires, car il s'est inscrit dans la perspective justement de la terre d'Israël, c'est une expression consacrée, ou terre promise, puisque dans le monde hébraïque, ce rapport à un territoire qui marquera son passage de l'état nomade à la sédentarisation Donc, cela s'exprimera par le recours à la notion de terre d'Israël. Et cette notion d'origine religieuse est inhérente à l'histoire même du peuple hébreu. Le passage à la sédentarisation se traduira ainsi par le recours à l'expression « terre promise ». Cette conception biblique de la terre permet de mieux comprendre la relation Dieu-terre-homme et l'établissement dans cette relation des normes qui la régissent, à savoir une législation à la fois sociale et religieuse, ce que nous connaissons dans le livre de Deutéronome notamment, dans le Lévitique. Dans le livre de la Genèse, Dieu est créateur et maître absolu de la terre. L'homme, créateur de Dieu, entretient un rapport tout à fait spécifique avec la terre, car l'homme, Adam, est tiré de cette terre, Adama, et celle-ci est la source de la vie et de la prospérité de l'être humain, justement, dans la conception biblique. Et dans l'histoire du peuple hébreu, Dieu seul est le maître de cette terre, au point que, par exemple, le roi David jugera impossible d'adorer le Dieu d'Israël ailleurs que dans les limites de la terre d'Israël. C'est l'époque de monolâtrie, parce qu'on pense que les autres terres sont dominées par d'autres divinités. Et ainsi s'établit un lien très fort Dieu-terre-homme, d'où vient toute la législation qui régissait cette relation, étant à la fois de nature sociale et religieuse, ce qui vraiment imprégné toute l'histoire du peuple juif.
Abordons maintenant le sionisme religieux et son influence sur la création d'Israël. On parle ici d'un mouvement juif qui considère la création d'Israël comme un accomplissement de prophéties bibliques et messianiques, ce qui renforce la connexion entre la religion et l'État d'Israël. Professeur Mbodge, quel rôle a-t-il joué dans la formation de la politique et de l'identité d'Israël en tant qu'État-nation, en tenant compte des prophéties bibliques et messianiques?
Le sionisme a été fondé en réalité par ce qu'on peut appeler des juifs qui n'étaient pas pratiquants d'une manière générale et qui venaient d'Europe et dont disons l'enthousiasme ou en tout cas le projet était soutenu par ce qu'on appelle généralement dans l'histoire de l'Europe le mouvement des nationalités. C'est-à-dire qu'après la défaite de Napoléon dans les années 1810-1815-1820, il y a eu une montée du nationalisme en Europe où chaque nationalité a essayé de revendiquer un territoire à soi, et donc une sorte d'autodétermination, mais fondée donc sur la nation et même sur l'origine ethnique, et qui, bien entendu, au grand détriment des empires qui jusque-là, disons, régnait en Europe, en particulier l'Empire austro-hongrois et plus tard l'Empire prussien et d'autres. Et d'une manière générale, et pour ne pas entrer dans les méandres historiques, donc le projet sioniste, c'est un peu l'équivalent des Italiens qui veulent une Italie pour les Italiens. C'est un peu l'équivalent des Allemands qui veulent réunifier tous les Allemands dans un État unitaire, où l'ethnie allemande serait dominante et où ce sera sa patrie. Donc la même démarche a animé les Theodor Herzl et ses compagnons. Et là, évidemment, il s'agissait de trouver maintenant là où placer cet État. Et là où placer cet État, à ce moment-là, correspondait à ce qu'on appelle le déclin de l'Empire moribond, du vieillard mort de l'Europe, l'Empire ottoman. Et à ce moment-là, l'Empire ottoman dominait le Moyen-Orient, et en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui Israël-Palestine. Et donc, d'une manière assez, disons, logique, ce projet de ces nationalistes est encore une fois séculier, pas tellement religieux, israélien, de fonder une nation politique des juifs, et donc va essayer de viser un territoire qui à la fois va être pris d'une nation qui est en train d'être affaiblie, d'une nation qui n'est pas, comment dire, une nation chrétienne, disons, ou européenne, la Turquie, mais aussi dans la zone où les Juifs, comme l'a rappelé mon collègue tout à l'heure, où historiquement et de manière religieuse et de manière fondamentale, ils disent qu'ils ont des droits que Dieu leur a donné depuis les temps bibliques. Donc ça faisait un peu une sorte de parfaite conjonction où le religieux va aider en fait un nationalisme politique territorial à s'établir dans le Moyen-Orient actuel.
Cette région abrite les lieux saints, donc les sites religieux juifs, chrétiens et musulmans en Terre Sainte, qui ont une signification religieuse profonde et sont souvent au centre de conflits liés à l'accès, au contrôle et à la gestion de ces lieux. Père Grégoire, comment l'histoire de la coexistence et des conflits entre les différentes communautés religieuses en Terre Sainte ont-elles contribué à façonner les revendications actuelles?
Nous savons très bien que la Terre Sainte, les lieux saints, étaient toujours le sujet des conflits. Et j'aime le répéter chaque fois que, quand nous disons Jérusalem, Yerushalayim, la ville de la paix, finalement, était toujours une ville de tension. Historiquement parlant, c'est à partir de la domination ottomane et que la question se pose d'une manière vraiment importante pour trouver le mode de coexistence, parce que donc les Ottomans ils permettent l'accès aux lieux saints des chrétiens, donc les juifs qui habitent sur place, et puis tous les musulmans bien évidemment. Par conséquent, il fallait trouver un modus vivendi qui serait exprimé d'une manière telle pour garantir la coexistence paisible de toutes les communautés sans trop créer de problèmes. C'est pas, et nous savons très bien que les communautés ont rivalisé l'une avec l'autre. Je pense notamment, par exemple, aux chrétiens orthodoxes relevant du patriarcat de Constantinople ou à la communauté franciscaine. Bien souvent, les communautés essayaient, quelquefois en essayant de corrompre le pouvoir en place, d'obtenir des firmans, donc des documents officiels de la sublime porte des Ottomans pour pouvoir s'affermir ou s'approprier certains lieux saints. Et cela a engendré de nombreux conflits. Finalement, nous savons que c'est en 1757, après un grand conflit entre les catholiques et les grecs orthodoxes qui étaient sur place, il y a un nouvel rapport de force qui était favorable largement au grec orthodoxe qui s'est établi. Et donc, on a décidé que ce statut va avoir le lieu, une position de loi qui va régir les communautés existantes, notamment tout ce qui concerne la basilique de la Nativité, la tombe de la Vierge Marie et presque la totalité de la basilique de Saint-Sépulcre. Ce modus vivendi, ce statu quo, était confirmé par la suite, donc par le traité de Paris en 1857, et déclaré inviolable. Je crois qu'actuellement, toutes les communautés sont d'accord que c'est ce statut qu'il faut respecter afin d'éviter les tensions éventuelles dans les lieux saints.
Alors, certains groupes juifs et chrétiens croient en des prophéties messianiques et en un futur retour, il faut le souligner, du Messie en Terre Sainte, ce qui peut influencer leur attitude envers le conflit. Professeur Mbodj, comment l'eschatologie et le messianisme ont-ils évolué parmi les groupes juifs et chrétiens et en quoi ces croyances ont-elles influencé les attitudes et les actions des partisans de ces groupes dans le contexte du conflit israélo-palestinien à travers les siècles?
Oui, il y a certainement une vision messianique, d'ailleurs, qui est beaucoup plus importante, bizarrement, du côté des églises, disons, évangéliques ou des églises réformées par opposition à l'église catholique, qu'elle soit grecque ou romaine, d'ailleurs. Et c'est là où on a vraiment une sorte de culture messianique, le retour du Christ. en un moment donné. Évidemment, les conditions dans lesquelles ce retour s'effectue varient selon les chapelles religieuses, mais d'une manière générale, c'est un peu vu comme une sorte de réarrangement de l'histoire avant que le monde ne finisse, avant que nous soyons tous présents pour le jugement dernier. Il faut nécessairement que Jésus réapparaisse sur terre. Certains disent c'est pour finalement de consolider les siens, faire en sorte que tout le monde ait une sorte de dernière chance de se sauver en s'alignant derrière lui. D'autres pensent que ce sera le rôle de ce Jésus, de ce Messie, de venir et d'unifier une bonne fois pour toutes avant la fin des temps l'humanité, sous-entendu sous peut-être une bannière chrétienne. Et donc les gens qui croient à ces messages, en même temps d'une manière curieuse, pensent que alors les conflits actuels dans le Moyen-Orient sont une sorte d'exercice, une sorte de marche, une sorte d'événement avant le grand événement. Et donc, il encourage en fait cette sorte de cette hostilité, cette violence même dans le propos et dans l'acte pour précipiter, pour accélérer le moment où Jésus, le Messie, va réapparaître sur terre. Maintenant, du côté juifs, il y a bien entendu l'idée que le Messie est encore à venir, c'est pourquoi ils ne reconnaissent pas donc un statut extraordinairement important, disons, à Jésus et à tous les autres prophètes qui sont venus après Jésus, qu'ils soient musulmans ou autres d'ailleurs, mais d'une certaine façon, il y a une sorte d'attente de ce Messie qui va se manifester. Certains groupes pensent que ce Messie va se présenter dans la communauté israélite de Jérusalem même, donc dans les lieux saints. Donc il faut faire en sorte que tout soit prêt pour l'accueillir et faire en sorte que sa venue donc corresponde à un moment historique et qui, là aussi, évidemment, va mettre, disons, constituer la fin du temps et peut-être l'avènement du jugement dernier aussitôt après ou même en même temps. Mais en tout cas, l'idée qu'il y a bien ce Messie qui reste encore à venir et que ce Messie viendra du peuple israélite, du peuple juif. Et donc, de ce point de vue-là, tout ce qui consolide le peuple juif, consolide son pouvoir sur la région du monde où ce Messie va apparaître, leur paraît légitime.
Père Grégoire, brièvement, sur cette question, le retour du Messie en Terre Sainte, est-ce qu'il ne peut pas venir de n'importe où?
Exactement. Dans la plupart des courants juifs, le Messie doit, disons, venir dans les lieux saints. Et ce sont les courants qui sont plutôt orthodoxes, donc qui sont marqués politiquement par le sionisme politique, dans le sens que on veut joindre à cette dimension religieuse la dimension politique, notamment par l'engagement dans l'armée, par exemple, qui est bien souvent prononcé au sein de ces communautés. Pour les chrétiens et pour les musulmans, le Messie, c'est Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Donc, musulmans aussi le considèrent comme Masih et donc Issa, et croient en second avènement de Jésus de Nazareth à la fin des temps avec l'imam Mahdi. Et pour les chrétiens, cette venue de la transformation universelle de l'univers par l'avènement du Christ sera précédée par la venue des deux témoins, Élie et Enoch. Donc, il y a cette différence. Il est vrai que dans certaines branches de judaïsme qui ne sont pas centrées sur la Terre Sainte, sur l'Israël, mais quelquefois très orthodoxes, ils considèrent plusieurs personnages, comme par exemple les juifs de Ouman,
en Ukraine qui se rassemblent une fois par an pour fêter un rabbi qui est considéré comme Messie, ou par les juifs Lubavitch qui se rassemblent également à New York pour fêter le rabbi Schneerson qui, pour honorer la le rabbi Schneerson qui pour eux était considéré aussi comme comme Messie. Mais la plupart, quand même, des communautés juives considèrent que le Messie c'est, vraiment, est à venir et à fédérer tous les courants, fédérer sur la base religieuse, sur la base donc ethnique, le peuple juif en Israël, et puis, effectivement, opérer cette transformation apocalyptique à la fin des temps avec le jugement dernier.
Oui. Les textes et prophéties bibliques sont interprétés de manière diverse par différentes communautés religieuses, ce qui peut entraîner des divergences d'opinion sur les revendications territoriales, et ces interprétations variées ont contribué à façonner les divergences d'opinion dans le contexte du conflit israélo-palestinien au fil de l'histoire. Professeur Mbodj, il nous reste très peu de temps. La Terre promise, mythe ou réalité?
Évidemment, c'est un peu difficile à répondre lorsqu'on considère le côté religieux, parce que ça on ne peut pas comment dire ranger dans un camp ou dans un autre ce que les gens croient. Lorsqu'ils y croient, c'est leur croyance, c'est leur religion, et je ne pense pas qu'il soit adéquat quelquefois de discuter du fondement même de ces croyances. Mais tant que effectivement la notion de peuple élu choisi de Dieu qui a un contrat spécial et qui attend un Messie qui doit venir dans ses parages, il est évident que c'est du béton en quelque sorte religieux qui sera très difficile d'ébranler en quelque sorte, et de là effectivement on peut être pessimiste si la solution serait peut-être une sorte de redistribution des rôles, des tâches et du territoire, et de créer des souverainetés et des légitimités parallèles sur ce même territoire, qui soient à la même hauteur, qui soient de la même valeur. Ça, je pense que ça va être extrêmement difficile à trouver comme équilibre. Ce qui fait d'ailleurs que les bout-au-feu en Israël actuellement sont plutôt donc ces groupes messianiques, ces groupes ultra-orthodoxes, très très à la droite dans le système politico-religieux israélien, et qui pensent qu'en réalité la violence actuelle, le drame actuel, en quelque sorte est une sorte de vérification de leurs croyances et un signe avant-coureur de ce qui va se passer après.
Père Grégoire, il nous reste une minute. La Terre promise, mythe ou réalité?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec le professeur. Effectivement, il y a des aspirations parallèles en ce qui concerne donc ce lien viscéral, notamment du monde juif, du monde chrétien, du monde musulman avec la Terre Sainte. Et il y a juste une citation qui me vient, c'est-à-dire un document qui me vient, qui me passe par la tête, c'est la phrase du pape Jean XXII qui voulait engager une nouvelle croisade et qui écrit au roi de Sardaigne, donc on se trouve au début du XIVe siècle, et qui écrit, bon, bien évidemment, étant conscient de sa position en tant que vicaire du Christ, qu'il faut conquérir ou retirer les lieux saints, qui la terre promise, qui nous a été promise en la figure d'Abraham, notre père, en s'appuyant sur les mêmes, disons, arguments que la communauté juive. C'est, heureusement, la communauté chrétienne évolue dans ce sens-là, donc il n'y a pas de prétention d'acquérir ou de s'accaparer de cette terre où le Christ a vécu, mais il est vrai qu'il y a les aspirations parallèles des mondes religieux des trois religions, disons, de, concernant cette terre qui devient, qui est toujours un lieu des tensions.
Merci.
Y compris par les tensions politiques.
Merci à Père Grégoire, merci à Professeur Mbodge. Dans notre prochaine édition, nous verrons aussi comment les problèmes liés à l'islam jouent un rôle dans le conflit israélo-palestinien, principalement en raison de la présence de lieux saints islamiques en Palestine, en particulier à Jérusalem. Eric Manilakiza était avec vous au micro. Michel Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Merci également à tous ceux qui ont suivi cette édition de Dialogue des religions. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.